Let's go
Jeff Caron. Jeff Caron.
Jean-François Caron, salut, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très bien. 4 ans, Ukraine. Mm. Ce matin, entre Poutine et Zelensky, qui est le plus satisfait?
Écoute, c'est une bonne question. Je dirais que d'une certaine façon, les deux ont raison d'être satisfaits puis d'être insatisfaits. Je commencerai par Zelensky. On se reportera, c'est il y a 4 ans. Joe Biden avait offert dans les premières heures de l'invasion russe un lift à Zelensky pour qu'il puisse quitter le pays. Donc, il n'y a pas grand monde à l'époque qui donnait cher de sa peau. Tout le monde pensait, en tout cas, beaucoup de gens pensaient qu'il allait fuir le pays, qu'il allait partir en exil. Alors, il a fait le choix de rester, de se battre. Et puis, en faisant ce choix-là, ben, il y a beaucoup de gens qui disaient, sur papier, l'armée ukrainienne, c'était à peu près la 20e force armée du monde, alors que les forces armées russes, sur papier, encore une fois, c'est la 2e force armée du monde. Donc, les gens se disaient, bon, ils résistent, c'est beau, mais ça durera pas très longtemps. Or, 4 ans plus tard, le régime de Zelensky est pas tombé. Donc, il y a des raisons de se réjouir, évidemment, mais par contre, il y a des raisons de regarder la situation puis de se dire que ça va pas très bien, hein, parce qu'on s'entend que depuis les 4 dernières années, toutes les offensives ukrainiennes se sont soldées par des échecs. Donc, leur fameuse contre-offensive à l'été 2023 avec les centaines de chars d'assaut que l'Occident a fait parvenir à l'Ukraine, ils se sont cassés les dents sur les lignes de défense russes. Puis depuis ce temps-là, l'armée russe est constamment à l'offensive. Leur incursion.
T'as-tu les chiffres de morts, Jean-François?
Ben, c'est ça, on ne sait pas. Écoute, le ministre français des Affaires étrangères a évoqué le chiffre d'1 million de morts et de blessés du côté russe. Ça, c'est des chiffres qui proviennent du général Sirski, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Mais quand les journalistes demandent au général Sirski, mais en revanche, quelles sont les pertes ukrainiennes, ils refusent de le dire. Donc, je pense qu'il y a de la propagande ici.
Oui.
Les chercheurs les plus sérieux, sur la base des analyses des nécrologies dans les journaux russes, on peut estimer qu'il y a eu à peu près 200 000 morts dans l'armée russe. Puis pour chaque mort, il faut ajouter 2 blessés. Donc ça voudrait dire 200 000 morts, 400 000 blessés. Donc à peu près 600 000 jeunes hommes russes mis hors de combat. Puis on peut penser que du côté ukrainien, c'est à peu près similaire. Les Ukrainiens disent qu'ils ont eu 40 000 morts. Ça fait aucun sens.
Quel fiasco.
Je pense qu'on peut estimer que c'est à peu près 150 000, 200 000 aussi, puis le double de blessés. Donc, écoute, en termes de catastrophe humaine, ça a été absolument horrible. Puis,
on s'en va où avec ça? On s'en va où ce matin?
Écoute, avec Justin Coulon, dans notre podcast, il avait fait l'analyse suivante. Il m'avait posé la question, si tu savais pris combien d'années entre le début des négociations pour mettre fin à la guerre au Vietnam puis la signature de l'accord de paix. Les négociations ont commencé en 68, puis l'accord de paix a été signé en 73. Ça a pris 5 ans. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que les Nord-Vietnamiens pensaient pouvoir gagner la guerre, puis les Américains pensaient aussi pouvoir gagner la guerre. Donc, en fait, ils s'assoyaient, mais en réalité, ils négociaient pas vraiment.
C'était perçu.
C'est ça. Donc, c'est la même chose en ce moment. Tant les Ukrainiens que les Russes pensent pouvoir remporter la guerre. Donc, moi, je serais extrêmement surpris qu'il y ait un accord de paix cette année, en 2026, voire même en 2027. Je pense que ça va continuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la résilience de l'un ou de l'autre commence réellement à céder. Puis ça, c'est l'autre inconnu. T'sais, le premier inconnu, c'est le nombre de morts. Puis le deuxième inconnu, c'est le désir, la capacité de résilience des Ukrainiens et des Russes.
Mais on dit qu'ils sont encore résilients, mais épuisés. C'est ce qu'on décrit ce matin, bien évidemment, là.
C'est ça. Non, ils sont debout, ils maintiennent, ils sont encore là. Il y a de la désertion.
Sauf qu'il n'y a plus de courant, mais il n'y a plus de chauffage à Kiev, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans.
C'est ça. Donc, la résilience des civils, ça peut éventuellement aussi jouer un mauvais tour à Zelensky. Puis évidemment, en ce moment, c'est ce que les Russes essaient de miser là-dessus parce qu'ils font
encore... Est-ce que Trump et l'Europe sont sur un même pied? Jouent de la même trompette? Autrement dit, est-ce que les flûtes sont alignées ou il y a encore de la bisbille?
Non, écoute, les Européens veulent continuer la guerre. Les chefs d'État se sont engagés depuis 4 ans. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. C'est le cas de Starmer, c'est le cas de Macron, c'est le cas de Merz en Allemagne. Ces gens-là ne peuvent pas reculer. Ils sont condamnés à une fuite vers l'avant, constamment continuer à appuyer l'Ukraine. Donc, il peut y avoir des changements. L'élection présidentielle l'année prochaine en France, si c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui est élu président, ça va peut-être changer le cours des choses, mais il y a encore une volonté de la part de l'Europe de continuer à appuyer l'Ukraine. Tandis que les Américains, honnêtement, je pense que Trump, il s'en sac. Lui, d'une certaine façon, je pense que d'une certaine façon, il y a intérêt à ce que la guerre continue pour deux raisons. Parce que ça affaiblit la Russie. Inévitablement, il y a des soldats qui meurent à tous les jours. Puis d'autre part, les Européens continuent à donner de l'armement aux Ukrainiens, mais c'est de l'armement qu'ils achètent aux Américains.
Donc, ça fait virer la machine.
Ben oui, ils font du cash. Puis en plus, les Européens ont dit on arrête d'importer du gaz et du pétrole russe. Fait que le gaz liquéfié, il vient d'où? C'est du gaz canadien qui transite par les États-Unis et qui est exporté vers l'Europe. C'est les Américains qui font du cash en exportant du gaz liquéfié vers l'Europe qui en a de besoin parce qu'ils n'en importent plus de la Russie. Fait que les Américains, eux autres, là, sur un point de vue complètement business, on ne parle pas du point de vue humain, mais d'une perspective très business, ils ont intérêt à ce que la guerre continue. Parce que ça leur coûte plus rien depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Ils font du cash, c'est une business maintenant pour eux. Donc c'est ça, donc la résilience, c'est le grand inconnu. On ne sait pas combien de temps les Ukrainiens vont être en mesure
de tenir le coup. Et l'objectif de Poutine, c'est quoi, Jean-François? L'objectif de Poutine?
C'est minimalement de conquérir l'entièreté du Donbass. Donc, il reste encore une partie d'un des deux oblasts à conquérir. Il y en a un qui est conquéri à 99 %. L'autre, il conquis à peu près à 70 %. Minimalement, c'est ça. Puis, maximalement, c'est de renverser le régime de Zelensky puis de mettre en place un régime qui est davantage à la solde des intérêts de Moscou. Je pense pas que ça va arriver. Je pense qu'il va devoir se contenter de ses objectifs minimaux. Mais il y a encore les moyens de ses ambitions. T'sais, graduellement, l'armée russe gruge lentement mais sûrement toujours un petit peu plus de territoire. Ils ont pris Bakhmut en 2023. Ils ont pris Pokrovsk récemment, Tchassiviar. Ça, c'est des villes forteresses. Et une fois que ces villes forteresses-là vont tomber, ben ça va être un billard dans la plaine ukrainienne qui va leur permettre de conquérir les dernières grandes villes de l'oblast qui leur reste à conquérir. Fait que ils ont les moyens de continuer pour encore quelques années. Oui, l'économie russe est au ralenti. Mais malgré tout, le fonds souverain qui a réussi à réaccumuler des surplus de l'ordre d'à peu près 100 milliards de dollars va permettre à l'économie russe, malgré tout, ouais, de pouvoir rester à flot malgré des difficultés indéniables. Il y a beaucoup d'inflation, puis il y a des catégories de citoyens qui en sont victimes, qui profitent pas de la guerre, ça, il faut le dire. Puis il y a un risque, à quelque part, à un moment donné, qu'il puisse y avoir des désordres civils à l'intérieur de la Russie. Mais si ça va se produire, c'est pas demain la veille, là. Parce que l'économie russe est quand même en mesure de maintenir le coup pour encore au moins 2 ans.
Jean-François, tu nous quittes momentanément pour une petite mission. Tu reviens, tu quittes pas longtemps, puis tu reviens, c'est ça?
Oui, je prends l'avion dans quelques heures. Je vais passer les cinq prochains jours jusqu'à lundi prochain à Montréal pour participer à des enregistrements d'émissions, de podcasts.
Avec Bureau, entre autres?
Oui, ben, je participe à son émission à Télé-Québec, là, vendredi soir, l'enregistrement.
Là, on vient de le dire, fait que ça va être cancellé parce qu'il y a 2-3 du camion qui vont pleurer.
Ben écoute, ils se plaindront tant qu'ils voudront. Ces fans de Bureau, c'est pas le genre de gars à se laisser impressionner par une gang de chialeux. Puis après ça, tu sais, je fais une autre série de podcasts, par exemple avec Jer Alain, Rémi Villemur.
Viens-tu à Radio X?
Oui, oui. Non, je vais rester juste à Montréal pour 3 jours.
C'est insultant pour les gens de Québec.
Ben oui, je sais, j'en suis désolé.
Tu viendras même pas voir ta famille à Charny?
Non, mais en fait, c'est ma mère va venir me voir à Montréal.
Dan! Québec s'en va à Montréal rencontrer Caron. Caron vient même pas à Québec.
Les GES, c'est ça.
Ligue de Primadonna. Ouais. Hey, bon voyage, Jean-François. On se reparle.
Ouais, merci.
Salut.
Bye.
Bye.